France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet,
Valérie Zenati, écrivaine, scénariste, traductrice.
Premier épisode, une étrange étrangeté. Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous, à Paris. Vous êtes une voix familière des auditeurs et des auditrices des antennes de Radio France. Vous passez régulièrement sur France Inter et sur France Culture notamment. Vous avez même remporté le prix du livre Inter en 2015 pour votre livre Jacob, Jacob. Et on vous connaît aussi bien comme romancière que comme traductrice de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld. Et je dirais aussi, peut-être depuis octobre 2023, comme intellectuelle, car vous intervenez aussi dans le débat public en tant que connaisseuse du terrain proche oriental, on va dire. Il faut dire que vous avez vécu 8 ans en Israël, que vous y allez souvent, que vous avez écrit des livres qui se passent dans le pays, certains avec un très grand succès, comme Une bouteille dans la mer de Gaza, qui a été vendue à plus de 500 000 exemplaires et traduit dans 18 langues. Je suis donc très heureuse de faire votre à voix nue aujourd'hui, même si étant née en 1970, vous n'êtes qu'au mi-temps, j'espère en tout cas, de votre vie. Mais quelle vie ! C'est ce qu'on va voir au fil de ces 5 entretiens.
Merci.
On commence pas toujours dans l'ordre, c'est à voix nue, mais en l'occurrence, ça m'a paru mieux de consacrer ce premier épisode à l'enfance, comme on fera l'épisode 2 sur votre séjour en Israël. Car dans votre cas, Valérie Zenati, ça permet de poser les choses et d'en comprendre beaucoup pour la suite. Si je vous demandais déjà ce qui a fait que vous êtes devenue ce que vous êtes devenue, vous diriez quoi ?
Oh là là, je pense que je réponds à cette question, ou j'essaie d'y répondre depuis le début. Je dirais que c'est la superposition de langues, de paysages qui sont les miens. Je suis née à Nice au début des années 70, donc ma langue maternelle est le français. Mon premier paysage a été la mer, avec cet horizon, cet infini, et en même temps ce mystère de ce que le regard ne peut pas percevoir. Je pense que la mer et la contemplation de la mer est pour beaucoup dans ce que je suis. Il y a évidemment à la fois tout l'aspect familial, historique, qui est très important, et qui est ce que j'ai reçu et ce dont j'ai eu besoin de me défaire pour devenir plus ou moins qui je suis. Il y a eu ce que j'ai reçu malgré moi et ce que je suis allée chercher. Et il y a eu certainement, et ça c'est dès l'école, dès mon arrivée au CP, une succession de rencontres tout au long de ma vie et jusqu'à ce jour, qui sont, je crois, pour une très grande part dans ce que je suis aujourd'hui. Et vraiment, je pense que la rencontre, c'est quelque chose qui a été pour moi une sorte de révélation quand j'étais enfant, la possibilité de rencontrer d'autres adultes que mes parents ou que ma famille, donc des enseignants, mon professeur de violon, mes professeurs au collège. Et puis ensuite, l'amitié, évidemment, est devenue centrale. Je crois que je pourrais raconter cette vie en entrant de mille manières, mais je crois que si je la plaçais sous le signe de la rencontre, ce serait certainement la manière la plus juste, peut-être.
La première des rencontres, vous l'avez évoquée quand même, c'est évidemment vos parents. C'est-à-dire que vous ne savez pas dans quelle famille vous allez tomber. Et il y a un mot qui revient beaucoup quand vous parlez de votre enfance et de cet environnement familial. C'est l'étrangeté, ou en tous les cas, le sentiment que vous avez longtemps eu d'être étrangère ou étrange. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « Une étrange étrangeté ». Pourquoi cette étrangeté ?
Là aussi, c'est une question de superposition, parce que j'ai le sentiment que beaucoup de gens, enfants, ont ce sentiment de ne pas forcément être à la bonne place, ou il y a ce fantasme d'avoir été peut-être adopté. Et c'est quelque chose de peut-être d'assez commun. Mais en ce qui me concerne, il y avait peut-être un peu trop d'éléments forts et incompréhensibles.
Une superposition là aussi.
Oui, une superposition. Parce que mes parents étaient français, des Français d'Algérie, enfin venus d'Algérie en 1961 et 62, mais cette origine-là, cette époque-là, ne faisait pas d'eux des Français aux yeux des autres, surtout sur la Côte d'Azur. régulièrement, par exemple, la voisine de ma grand-mère mettait des mots horribles sur le pare-brise de ma mère en disant « rentrez chez vous ». Et moi, je comprenais pas très bien, parce que chez nous, pour moi, c'était voilà rue de France, pas très loin de la promenade des Anglais. Les récits sur l'Algérie et puis sur la Tunisie aussi, via ma grand-mère, étaient extrêmement présents. Et donc, il y avait vraiment la conscience que mes parents avaient pris racine ailleurs et que leur paysage n'était pas les miens. Leurs expériences de vie n'étaient pas quelque chose auquel je pouvais me raccrocher. On était juifs également, enfin, je suis toujours. Et donc, la judaïté, dans ces années-là, c'était quelque chose qui était vécu plutôt discrètement. On disait pas qu'on allait à la synagogue, on disait qu'on allait au temple, par exemple. Et quand un enfant faisait sa bar mitzvah, on disait qu'il faisait sa communion. Il y avait tout un langage pour transposer le fait religieux en quelque chose qui était plus assimilé, si j'ose dire. Et puis, les deux derniers éléments, peut-être, par un concours de circonstances, ma famille s'est retrouvée à être végétalienne quand j'avais 3 ans, je crois.
Ce qui était plutôt rare.
Ce qui était très rare, très radical. Surtout de la part d'une famille venant comme ça d'Afrique du Nord. Donc, ils étaient végétaliens, écolos. Moi, je me souviens, je crois que mes parents ont voté Brice Lalonde, je crois, au premier tour en 81. J'ai grandi dans la conscience que le monde allait à sa perte à cause du plastique, à cause de la pollution, à cause du nucléaire. Et autour de nous, tout le monde semblait penser que c'était de la pure folie. Et donc, il y avait ce décalage aussi. En fait, je n'avais aucun modèle qui pouvait rassembler toutes ces composantes qui étaient tout de même celles de ma famille et de ma maison, des traditions, de ce que je vivais. Donc, je me sentais effectivement étrangère, mais je ne savais pas non plus ce que signifiait de ne pas l'être. Ou peut-être si, à mes yeux, ça signifiait être catholique, avoir une maison de campagne, avoir un grenier, avoir des grands-parents, des deux côtés, parce que moi, je n'ai pas connu mes grands-pères, et pouvoir prononcer des phrases comme « j'ai reçu mes étrennes » ou « mon parrain va m'emmener en vacances ». Voilà.
Vous parlez de décalage et de superposition. Donc, eh bien, pour continuer les superpositions, vous disiez que vos parents sont français. Enfin, quand ils sont arrivés en France, ils étaient français d'Algérie. Donc, on parlait français à la maison.
Bien sûr.
Mais ils ont eu envie de vous mettre dans une école juive orthodoxe quand vous étiez en maternelle, Valérie Zanatti. Et par conséquent, la première langue, alors même que votre langue maternelle était le français, la première langue que vous avez apprise, ça a été l'hébreu. Là aussi, superposition.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est à proprement parler stupéfiant. J'ai réalisé récemment que la première langue que j'ai donc appris à lire et à écrire n'était pas ma langue maternelle et était une langue que je ne comprenais pas, qui était la langue sacrée, la langue liturgique, la langue qui me permettait de faire mes prières matin et soir. Ça aussi, c'est un élément qui a joué sans doute dans qui je suis, parce que je suis née dans une famille croyante et pratiquante. Et j'ai été croyante et pratiquante à peu près jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc les 13 premières années de ma vie sont quand même placées sous le signe de la foi, d'un être, d'un concept, d'une force mystérieuse qui s'appelle Dieu et en laquelle je crois, d'une histoire, d'un passé, parce que j'étais extrêmement préoccupée par ce décalage que j'avais à combler entre le monde avant ma naissance et ma propre vie. C'est-à-dire, j'avais conscience à travers les récits, et notamment les récits bibliques, qu'il y avait eu une histoire, enfin, que l'humanité avait toute une histoire, que moi-même, je ne pouvais pas m'approprier puisque je ne l'avais pas vécue. Et donc, je crois que je cherchais à combler aussi cet écart entre le petit temps de ma vie et le temps de la Bible, de la création du monde, et puis après le temps de l'histoire, le temps de la propre vie de mes parents, dont j'étais une petite fille extrêmement tournée vers le passé. Et le fait d'être dans une école juive, en tout cas en maternelle,
jusqu'au CP,
a fait que j'ai vraiment intégré les récits bibliques, les règles, le rapport à Dieu et au temps de manière sacrée et pas du tout de manière pragmatique, si j'ose dire. Le rapport au temps dans la religion juive, il est présent dans chaque prière. Chaque prière rappelle, ou presque, rappelle la création du monde, rappelle la sortie d'Égypte. On est en permanence dans le rappel d'événements fondateurs qui nous fondent même si on ne les a pas vécus. Et donc, j'avais cette profondeur du temps, cette interrogation aussi, du mutisme de Dieu, qui était une question qui me taraudait beaucoup. On me disait que les hommes, à un moment donné, n'avaient plus été dignes de l'entendre. Et je me suis doutée assez vite que ce n'était pas une bonne réponse, une réponse valable, parce que, en lisant la Bible, j'avais le sentiment que les hommes, à l'époque, n'étaient pas meilleurs qu'aujourd'hui. Ils péchaient, ils tuaient, ils mentaient, ils trompaient. Et donc, c'est peut-être par cette réponse que j'ai commencé à avoir quelques doutes.
Tout a changé, en tout cas, peut-être pas de ce point de vue-là, parce que vous avez continué d'être ce que vous commenciez à être, Valérie Zanatti. Mais en tous les cas, du point de vue environnemental, extérieur, tout a changé au CP. Puisque vous avez, vous êtes passée en école publique.
Oui, alors j'ai connu peut-être ce qui a été ma première rébellion. J'écrivais penchée parce que j'estimais que c'était élégant. J'avais l'impression que ça se rattachait à peut-être des textes que j'avais vus du 18e siècle.
À 6 ans ?
Oui.
À 6 ans, vous aviez vu des textes du 18e siècle ?
Alors, je pense, parce que de mémoire, il y avait des antiquaires rue de France. Et donc, ils exposaient des édits du roi. Vous savez, on voit ça parfois chez les antiquaires. Et donc, il y avait particulièrement un antiquaire où j'étais fascinée par les poupées en porcelaine, qui n'étaient pas notre monde et à quoi j'aspirais. Et il y avait aussi des édits du roi. Et puis, il y avait tout simplement les livrets de famille aussi. J'étais déjà très intéressée par les archives. Donc, je regardais l'album de famille, les photos en noir et blanc qui racontaient des visages dont je connaissais tous les prénoms. L'un d'eux est devenu ensuite le héros de Jacob. Mais il y a quelque chose qui s'est créé en moi, la conviction que être français et être élégant, c'était écrire penché. Voilà, signifiait écrire penché. C'était ma petite cuisine, donc j'écrivais penché, ce qui déplaisait fortement à l'institutrice qui nous faisait les cours de matière profane, puisqu'il y avait 3 heures de matière sacrée et 3 heures de matière profane. Donc elle a très vite refusé de m'accepter en cours, j'errais dans les couloirs en pleurant pendant des heures. Et un jour, ma mère nous a enlevés de cette école et on est parti donc à l'école publique, ce qui a été, je pense, pour moi en tout cas, un moment extrêmement émancipateur. Parce que juste là, je n'avais connu que j'avais connu que le monde de ma famille et donc d'une partie de la communauté juive. Et puis soudain, j'étais en contact avec des gens qui n'étaient pas juifs, qui venaient d'ailleurs ou qui venaient pas d'ailleurs justement. Et puis surtout avec des enseignants qui ont été extraordinaires.
À l'âge de 7 ans, Valérie Zanatti, il y a un drame qui survient dans votre famille, que vous racontez notamment dans Retard pour la guerre, puisque l'année de vos 7 ans, votre maman a accouché d'une petite fille mort-née. La petite fille que vous étiez attendait, oui. Sa sœur. Et sa sœur n'est jamais arrivée. Vous aviez déjà une sœur plus grande, de 3 ans votre aînée, mais cette petite fille, vous n'avez jamais vu cette petite fille. Et ça a été un drame Il y a eu un silence autour de cette mort. Vous dites souvent que vous ne vous souvenez pas de grand-chose avant vos 6 ans.
Tout à fait.
Et pourtant, là, c'est un événement fondateur. Vous aviez passé les 6 ans.
Oui.
Vous vous souvenez de ce moment où il y a eu une absence et un silence ?
Alors, je me souviens de l'attente parce que, étant hantée par l'oubli premier, ce dont je parle assez régulièrement, c'est-à-dire cette amnésie qui nous est commune de notre naissance, de notre arrivée au monde et des premières années. Mais j'étais vraiment hantée par ça, par l'existence qui ne laissait aucune trace intérieure. D'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse pour sortir quelque chose que
vous avez préparé sur la petite table.
Voilà, oui, voilà. Il y a quelques petites archives ici. Alors j'en ai beaucoup, elles sont pas si rangées que ça.
Vous avez gardé toutes vos rédactions dans un placard qui est tout à fait accessible dans votre salon parce que l'école a été un lieu très très important pour vous, donc les rédactions notamment, mais il y a aussi des carnets.
Oui, 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 oui. Et là, j'ai ce carnet qui est un des tout premiers carnets.
Un tout petit carnet orange Rodia.
Voilà. Mais alors vraiment, je crois que c'est le modèle le plus petit. Il doit faire 4 cm sur 6. Et par exemple, là, on partait en vacances en Savoie. Et je note 9h05, Cagnes-sur-Mer. 9h10, Jouan-les-Pins. 9h20, Cannes. 9h45, Saint-Raphaël. 10h40, Toulon, 11h45, Marseille. C'est-à-dire que lors de ce voyage, on devait être en 1978, j'ai eu besoin de me dire, à partir de maintenant, je vais tout noter. Et donc, je vais noter où je suis et à quel moment. Ce qui n'avait strictement aucun sens, aucune utilité, mais qui disait bien à quel point je voulais retenir les choses. Et j'avoue que cette petite sœur, je l'ai attendue aussi parce que je voulais être témoin du commencement de la vie, puisque je n'avais pas été témoin de mon propre commencement. Et c'est vrai qu'elle n'est jamais réellement arrivée. Mes parents, pour qui ça a été vraiment une grande épreuve, ont mis plusieurs semaines à nous le dire. Et voilà, je viens d'une famille où il y avait à la fois beaucoup d'amour, beaucoup de drames qui étaient parfois racontés, mais qui ont caché des plus grands. Et c'est avec tous ces silences aussi que j'ai grandi.
Des silences, des violences aussi, Valérie Zenati, parce que il en est question dans plusieurs livres, et notamment dans En retard pour la guerre, d'autres types de violences. Alors on dit souvent que les victimes de violences, et notamment je pense à des violences sexuelles pendant l'enfance, ne sont pas entendues. Je m'en voudrais de pas aborder cette question, je ne vous oblige absolument pas à en parler si vous ne voulez pas, mais les choses sont quand même très clairement dites. J'ai vu des choses dans vos livres, en les lisant, que je crois vous n'avez jamais abordé. Peut-être ne voulez-vous pas qu'on en parle, auquel cas je respecterai infiniment les choses. Mais il y a aussi eu des violences et des silences à propos de ces violences.
Alors ça me touche que vous ayez lu, et perçu des choses, parce que je pense que jusqu'à ce jour, j'ai eu la chance d'être lue par beaucoup de gens, que ce soit en presse écrite ou à la radio, vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que je suis très attachée à cette antenne, à ces antennes, parce qu'elles m'ont permis d'avoir des réflexions sur ce que j'écris, sur ce dialogue que je peux avoir avec le monde qui m'entoure et avec ce qui m'anime lorsque j'écris. Je pense que ce qui est présent dans les livres est là parce qu'il y avait une nécessité littéraire de se saisir de ce qui peut être, à un moment donné, une condition indéchiffrable. Et je pense que l'enfance maltraitée ou l'enfance violentée est une condition indéchiffrable. Et que il y a voilà toutes sortes de témoignages et c'est vous l'avez dit, le témoignage, c'est le témoignage. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais écrit de témoignage et j'ai écrit un récit sur ma relation avec Aaron Appelfeld, mais le témoignage, c'est pas un genre que je pratique. En revanche, je pense que il y a quelque chose qui s'est construit sans doute en parallèle chez moi, c'est dans l'enfance la conscience effectivement qu'il y avait des choses que je comprendrais plus tard. J'espère ne pas me tromper en disant ça, parce que de toute façon, toute parole sur l'enfance est un récit reconstitué. J'espère ne pas me tromper, mais des traces que j'ai, je sais que à travers les livres, parce que très tôt j'ai été une très grande lectrice, et puis les films, mon père adorait le cinéma, on passait voilà des heures à regarder des films le soir, là, je sais plus comment ça s'appelait, la séance sur le cinéma avec Eddie Mitchell, et même les chansons ou la musique. Quand j'ai commencé à jouer du violon, j'avais l'intuition qu'il y avait des outils pour comprendre un jour ce que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. Et c'est un peu ce qui s'est produit, un peu, parce que je pense qu'il y a des choses qui restent indéchiffrables.
Toujours est-il que dans Mensonge, par exemple, vous écrivez qu'il y avait un lieu où vous vous sentiez pleinement en sécurité, même protégé, vous écrivez, c'est l'école. L'école, oui. Vous y avez investi beaucoup à l'école, ça a été très important, vous étiez une très bonne élève, comme je le disais tout à l'heure. Vous vous souvenez d'une institutrice en particulier en CE1.
Oui, CE1 et CM2, Madame Marachi.
Oui, vous vous souvenez du nom.
Mais... à l'école des Baumettes. L'école était un lieu protégé parce que je crois vraiment, et c'est vrai qu'on le perçoit sans doute un peu dans Jacob, qu'il y avait notamment du côté de la famille de ma grand-mère maternelle, il y avait eu beaucoup de violence. Il y avait aussi une grande misère, hein, une misère sociale très, 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 très grande. Ma mère a vraiment grandi dans le dénuement. à Constantine, ils étaient 6 dans une petite pièce, sans électricité, sans eau. Donc c'était des gens qui venaient vraiment du plus bas de l'échelle, je pense, socialement. Donc il y avait eu aussi des formes d'humiliation sociale. Il y avait un manque d'assurance très très grand. Il y avait des tabous énormément. L'école était un lieu où, par la grâce des matières, voilà, calcul, orthographe, grammaire, travaux pratiques, etc., par la grâce des matières, par la grâce des horaires, par la grâce d'une personne qui semblait détenir le savoir, où ça mettait un peu d'ordre. Et puis voilà, c'est un terrain de découverte extraordinaire. Et moi qui me posais 1000 questions par jour, j'avais au moins la possibilité de faire quelque chose de ces questions, de répondre à des questions, d'ordonner ce chaos. Et voilà, et puis peut-être aussi que l'affect était trop grand à la maison et qu'à l'école, il y en avait un peu, parce que j'étais vraiment attachée à mes institutrices. Elle était à moi, je crois, et j'avais besoin d'être aimée d'elle, mais c'était quand même plus neutre et donc c'était assez protecteur.
Et puis, alors, vous ne vous êtes pas aidée, Valérie Zenati, parce que à 8 ans, vous vous êtes procuré un choc. Vous n'étiez pas obligée de le regarder, mais vous avez regardé, en tout cas, le premier épisode d'une mini-série à l'époque qui s'appelait Holocauste, qui passait sur les antennes du service public à
antenne
la télévision.
Au-dessus de l'écran.
Holocauste, ça dit bien ce que c'était. Hein. C'était avant Shoah, évidemment, de Claude Lanzmann. Mais Holocauste vous a provoqué des terreurs et des angoisses nocturnes, et surtout une prise de conscience entre la judéité que vous aviez investie d'un point de vue religieux pendant vos 8 premières années. Là, vous avez basculé dans autre chose, c'est ça ? Une prise de conscience différente ?
Oui, ça a été un événement national, ces dossiers de l'écran, avec cette première fiction qui passait à la télé sur l'extermination des Juifs d'Europe. Et donc là, c'est vrai que le mot juif s'est teinté d'autres choses. Je percevais des discussions que je ne comprenais pas vraiment. J'ai le souvenir d'avoir entendu un garçon à l'école parler de la série. Et voilà, il y avait ce mot, il y avait le mot national-socialisme que je ne comprenais pas, parce que je ne voyais pas comment ça pouvait être négatif, puisqu'il y avait le mot socialisme dedans. Bon, moi, mes parents étaient votés socialistes, donc il y avait vraiment beaucoup de choses très simples que je ne comprenais pas. Le mot nazi que j'entendais, donc l'abréviation, sifflait vraiment comme un serpent à mes oreilles. Et j'ai senti qu'il y avait là quelque chose de très important dont il fallait que je m'approche. Et j'ai menti à ma mère, puisque c'était un programme interdit aux moins de 12 ans. Un soir, en rentrant de l'école, je lui ai dit, tu sais, la maîtresse à l'école a dit qu'il fallait regarder Holocauste parce que c'est comme un cours d'histoire. Voilà, j'avais fait mon petit mensonge. Et comme effectivement j'étais très bonne élève et que ma mère me faisait entièrement confiance, j'ai regardé le deuxième épisode dont je garde quelques images, qui m'a évidemment complètement retournée et bouleversée. Et à partir de là, oui, pendant un an, j'étais persuadée qu'il y avait un SS caché sous mon lit. J'ai été prise de terreur. Je ne comprenais pas qu'on ait pu tuer des innocents, évidemment, mais, et des enfants. J'intégrais le fait qu'être juif avait pu, 30 ans avant ma naissance, et c'est pas tant que ça, 30 ans, signifier une condamnation à mort. Et donc là, oui, c'est une grande fracture dans mon enfance. C'est, je l'ai pensé un jour, la découverte que la guerre est ce moment où les parents ne peuvent pas protéger les enfants. Alors, c'est quelque chose qui existait aussi dans l'histoire familiale par ailleurs et qui rejoignait ce que j'éprouve à l'égard de la guerre. Mais cette terreur-là, elle a été évidemment très éprouvante, très, très, très éprouvante. Et en même temps, je dirais qu'il n'y a pas eu un moment de ma vie, y compris dans ces moments-là, où la beauté, les livres, la conscience que quelque chose de beau pouvait devenir ne m'a pas accompagnée aussi. Et en ce sens, je crois que l'une de mes lectures de l'époque et qui m'a accompagnée à plusieurs reprises, c'est Les Misérables, et en particulier Cosette et le moment où elle va chercher l'eau dans la forêt. Vraiment, ce moment que j'ai relu plusieurs fois où elle est seule dans la forêt, elle est prise dans une terreur qui a quelque chose de vertigineux, qui n'est pas uniquement de l'épouvante, et elle est sauvée. Et donc, comme pour moi, c'est un moment fondateur, je crois qu'il y a toujours eu en moi, même dans ces moments de peur, voilà, la certitude qu'on pouvait être sauvé. Mais en même temps, avoir 8 ans et être en proie avec cette terreur-là, historique, mais qui me concernait de manière intime, c'est un peu trop grand. Et ça s'est transformé assez vite, puisque à partir de là, j'ai été prise de passion pour l'histoire. Et donc, je me souviens de la révolution iranienne, je me souviens du coup d'État, enfin de la prise de pouvoir de Jaruzelski.
En Pologne.
En Pologne, je m'intéressais à ce qui se passait en Europe de l'Est. Les mots « rideau de fer » me fascinaient. J'imaginais un vrai rideau de fer qui séparait l'Europe. Voilà, les accords de paix israélo-égyptiens. Enfin, disons que par la série Holocauste et la conscience de ce qui s'était passé, 30 ans avant ma naissance, il y a une accélération en moi qui s'est produite et je me suis dit, il faut que je comprenne le monde dans lequel je vis et pas uniquement par le religieux.
Et puis, vous vous êtes mis à écrire à ce moment-là pour ne rien oublier. C'est à partir de là que commencent les carnets sous forme de journaux intimes. Vous nous en avez lu un très, 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 très court extrait, mais vous consignez tout. Vous le racontez aussi dans votre livre Mensonges, Valérie Zenati, où on voit l'importance qu'a prise pour vous l'écriture à partir de ce moment-là, et elle ne vous a plus lâché. Et puis, dans les choses qui sont plutôt positives, hein, cela dit, puisqu'il faut toujours voir le bon côté des choses, c'est aussi, d'une certaine façon, peut-être directement même, parce que c'est en écoutant le générique de Holocaust que vous avez entendu ce violon du Spirituals for Orchestra de Morton Gould, que vous vous êtes mis au violon. Vous vous souvenez d'ailleurs même de la date, elle doit être consignée quelque part.
Elle est là.
Le 9 mai 1979.
Oui, voilà, c'était un jour heureux. Mercredi 9 mai 1979, à 18h30. Maman et moi avons rendez-vous avec Monsieur Bertoni, mon professeur de violon, pour acheter mon violon. Oui, j'ai dit acheter alors qu'on le louait. Il fut convenu qu'on prendrait un demi. Et je partis heureuse. Et je suis toujours frappée de voir que le moment où j'ai vraiment écrit quelque chose d'autobiographique, ça a été voilà, ce moment où la musique est entrée dans ma vie. Et quand je disais tout à l'heure que même dans ces moments d'effroi et de terreur, parce que cette conscience qu'on peut être tué uniquement parce qu'on est né d'une appartenance, c'est vraiment une épouvante dont il faut essayer de comprendre les effets et de les dépasser. Et le violon, effectivement, qui était présent dans cette série, m'a en quelque sorte appelé pour exprimer autre chose et pour peut-être laisser jaillir une voix qui n'était pas du tout faite de mots, puisque je n'avais pas les mots, et dont j'ai commencé à prendre des cours avec ce professeur extraordinaire, qui a été aussi voilà, une des rencontres les plus importantes.
Et on en reparlera dans l'épisode 5, Valérie Zenati. Mais comme vous avez consigné beaucoup de choses de votre vie avec des dates, on l'a entendu, c'est rare, mais vous pouvez dater la fin de votre enfance. La fin de votre enfance, c'est le 24 août 1983, vous avez 13 ans et demi. C'est le jour de votre départ en Israël, et ce sera l'objet de l'épisode suivant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à demain. À suivre l'épisode 2, une adolescente française en Israël. C'était À Voix Nue avec Valérie Zenati, prise de son Lucien Lefebvre, réalisation François Test, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.